Sans doute pour reprendre la main sur le plan politique, le président Nicolas Sarkozy multiplie aujourd'hui les initiatives en matière éducative. Alors un mot, avant de les examiner, sur la méthode. Certes, il faut se réjouir que l'éducation devienne ainsi un objet de préoccupation et de débat national. Mais on peut s'étonner néanmoins de la manière dont fonctionne le président de la République. Il annonce ses décisions et demande au ministre de l'Éducation nationale de les appliquer. Il est dans son rôle dès lors qu'il fixe des orientations, mais là, il fait plus que fixer des orientations. Il décide du comportement éducatif des enseignants. Et il le fait à partir de ses propres opinions personnelles, sans passer ni par une concertation avec les acteurs, que sont les enseignants eux-mêmes, les parents et tout le corps social, sans même passer par les institutions de l'éducation nationale, comme le Haut Conseil de l'éducation, que François Fillon avait créé quand il était ministre de l'Éducation nationale et qui est définitivement, semble-t-il, réduit à la figuration. Alors, on peut s'inquiéter d'autant plus de ce comportement du président de la République que, par ailleurs, il exhorte les élèves à respecter les règles de la République, tandis que lui, semble-t-il, s'en exonère facilement. Sur le fond et concernant la mesure qui a été la plus médiatisée, c'est-à-dire l'adoption par chaque enfant de CM2 d'un enfant mort pendant la Shoah au moment de l'Holocauste, on a tout dit et très bien dit. De Simone Veil à Régis Debray, on a montré à quel point il était absurde de faire ainsi porter la mémoire de la Shoah sur les épaules d'un enfant si jeune qui n'a pas les moyens. Combien aussi c'était une forme de démission de la société que de s'en remettre à l'école sur cette question aussi essentielle, et combien enfin cela pouvait traumatiser les enfants qui étaient dans cette situation. On n'a peut-être pas suffisamment dit que, sur la transmission de la mémoire, l'école jouait déjà son rôle, et qu'elle ne le joue pas si mal, qu'il existe des outils pédagogiques tout à fait remarquables, des travaux sur la transmission de la mémoire, comme ceux que mène l'équipe de l'Institut national de recherche pédagogique sous la responsabilité de Benoît Falaise. Il existe aussi d'excellents livres de littérature de jeunesse qui présentent de manière accessible aux enfants des histoires qui sont compatibles avec leur sensibilité et qui, en même temps, sont des points d'appui pour comprendre d'une manière plus scientifique et plus rigoureuse les grands enjeux de l'histoire contemporaine. Alors, à côté de cette annonce phare, le discours de Périgueux comportait plusieurs autres orientations. Une orientation sur la réaffirmation, à nouveau, de la prééminence de la langue et du calcul à l'école primaire. Alors, sur la langue, on ne peut évidemment que se réjouir de voir Nicolas Sarkozy redire l'importance de la maîtrise de cette dernière. La langue structure la personnalité, elle est aussi la condition d'accès à toutes les disciplines scolaires. Mais la question est bien celle du comment. La question est de savoir quelle conception de la langue il y a derrière les propos de Nicolas Sarkozy. Et je crains que ce soit une conception de la langue exercice, de la langue comme soumission à des normes, au lieu d'être une conception de la langue communication, de la langue expression, de la langue comme outil de construction, véritablement d'un point de vue citoyen. Les pédagogues connaissent depuis très longtemps l'importance de l'écrit dans la classe. C'est Célestin Freinet qui a introduit la correspondance et le journal scolaire. C'est la pédagogie nouvelle qui a incité les élèves à écrire des romans, à écrire des nouvelles. Et nous savons à quel point cet écrit est déterminant. Nous devons effectivement militer pour plus d'écrits à l'école primaire. Mais plus d'écrits, ça ne veut pas dire plus d'exercices stériles, ça veut dire plus d'écrits qui font sens, des écrits longs, des écrits où les élèves peuvent s'investir, des écrits où ils peuvent découvrir la joie de la communication et en même temps l'exigence au sein de la langue pour que cette communication soit une communication réussie. Faire rentrer l'enfant dans l'exigence de la langue, c'est bien autre chose que de le matraquer d'exercice, et je crains que ce ne soit pas cela qui soit en jeu dans les propos présidentiels. Deuxième élément, deuxième insistance, c'est l'éducation civique, c'est les comportements citoyens. Là-dessus, Nicolas Sarkozy évoque le respect dû à la Marseillaise, à Marianne, le respect dû aux institutions de la République. Alors, évidemment, les symboles peuvent être importants, tout à fait déterminants même, mais l'éducation civique ne s'apprend pas simplement à travers des symboles, elle s'apprend au quotidien de la classe. Elle s'apprend quand les élèves sont amenés non pas seulement à vivre ensemble dans l'école, mais à faire quelque chose ensemble dans l'école. Quand ils examinent en commun ce que ça peut être l'intérêt collectif. Quand ils examinent en commun quelles sont les règles qui structurent le groupe. Quand ils examinent en commun la différence entre les règles et la loi. Quand ils se posent ces questions fondamentales qui les aident à grandir. Et puis, ce n'est pas seulement à l'occasion d'activités spécifiques qu'on réfléchit à la citoyenneté. C'est à chaque instant dans l'école. Apprendre les mathématiques, le français, l'histoire, cela peut se faire de manière citoyenne, dès lors que cela se fait à travers une méthode respectueuse de chacun, dès lors que cela se fait dans l'écoute réciproque, dès lors que cela se fait à travers une pédagogie de projet où l'élève est amené à se confronter avec des savoirs d'une manière un peu forte, un peu authentique. Enfin, nous avons noté dans le discours de Périgueux un retour, une nouvelle fois, sur cette obligation de résultat des enseignants, sur cette nécessité de prévoir une comptabilité, en quelque sorte, des réussites scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale avait déjà annoncé que les résultats des écoles primaires seraient désormais disponibles par Internet. Cela me paraît extrêmement préoccupant. En réalité, derrière les effets d'annonce de Nicolas Sarkozy, il y a une évolution en profondeur de l'école que je caractériserai volontiers à travers deux adjectifs. C'est une école libérale et technocratique. Deux adjectifs profondément solidaires. Une école libérale d'abord, parce que, au fond, la suppression de la carte scolaire, la publication des indicateurs de réussite, la mise en concurrence des établissements, mais aussi des enseignants, et le fait que certains sites surfent sur cela est un fait de société très intéressant, eh bien, tout cela nous met en face d'une école qui n'est plus une institution de la République, qui est un service dans lequel chacun va tenter de trouver avec ses propres ressources, le meilleur rapport qualité-prix. C'est là où d'ailleurs le libéralisme est profondément lié à la technocratie. Dès lors qu'on laisse la bride sur le cou aux intérêts individuels, eh bien, il faut outiller les personnes pour que ces dernières puissent précisément trouver leur chemin et trouver les moyens d'aller au mieux vers leur propre intérêt individuel. Cette technocratie monte aujourd'hui. Elle monte non pas dans la perspective souhaitable d'une association des parents et des élèves à la définition des objectifs et des modes de fonctionnement du service national de l'éducation nationale, mais cette technocratie monte tout simplement parce que dans la jungle d'une école libéralisée, il faut bien des indicateurs pour s'opérer, et ces indicateurs pour s'opérer, eh bien, le libéralisme les produit. Observons d'ailleurs que nous avons été nombreux il y a déjà longtemps a souhaité que les parents et les élèves soient associés à la réflexion sur la qualité au sein du service public. Nous le souhaitions parce que, justement, nous craignions que s'ils ne sont pas associés à la réflexion sur le service public, eh bien, ils cherchent à exercer leur pouvoir sur, à l'extérieur de ce service public. Et c'est ce qui est en train de se passer, entériné largement par le gouvernement. C'est ce qui est en train de se passer. On a renoncé à une vraie concertation dans l'école et on cherche à donner aux parents du pouvoir sur l'école. Quand il faudrait s'interroger, enseignants, parents, élèves, sur les dysfonctionnements qui existent naturellement dans tous les éléments, dans tous les maillons du système éducatif, quand il faudrait s'interroger sur cela, eh bien, en réalité, on éjecte les parents, on ne les consulte pas sérieusement, on ne leur laisse qu'un seul pouvoir, celui de s'informer sur les performances et de zapper entre les profs et les établissements. Nous nous éloignons de la conception républicaine de l'institution, celle qui associe les citoyens à la définition du bien commun, et nous allons vers une définition totalement libérale de la consommation, celle qui simplement fournit aux individus les outils pour piloter la meilleure stratégie pour leur propre progéniture. Un dernier mot enfin, Nicolas Sarkozy fait porter une terrible responsabilité à l'école dans tous ses discours. Il dit que c'est à elle de restaurer la morale, la langue. Un mot pour dire que l'école a évidemment une responsabilité, mais que dans ces domaines-là, l'école résiste plutôt mieux que le reste de la société, que le showbiz, que la politique, par exemple. Elle résiste plutôt mieux et qu'elle a beaucoup de mal, parce qu'à l'extérieur de l'école et dans des milieux que fréquente et que connaît bien Nicolas Sarkozy, on donne des contre-modèles, des contre-exemples massifs de cette exigence que l'école cherche précisément à promouvoir. Alors, il faut que la société sache aussi ce qu'elle veut et que la société décide, non pas de faire de son école le bouc émissaire de ses propres errances, mais de se mettre en cohérence avec ce qu'elle exige de ses propres enfants. C'est un enjeu républicain, c'est un enjeu démocratique, c'est évidemment un enjeu essentiel pour notre avenir.